Tiens, avant de parler de circulation, 16h38, on trouvait que la position de la Ville de Québec concernant la taxe à l'immatriculation était, Audrey, à côté de la plaque.
Bravo, Denis, bravo!
Ouais, mais là, il n'y a plus rien de drôle parce que finalement, ils vont en avoir une taxe à l'immatriculation.
Allô? Mais contrairement à Jackie Smith qui voulait quoi, un 1700 de taxes à l'immatriculation, c'est le Soleil qui nous sort cette information-là. On irait pour une demande pour un 10 $ de taxes à l'immatriculation, mais le montant
peu, là.
Précis...
T'as peu, là. Enregistrer deux chats, ça me coûte 50 $.
Mais t'as déjà un 30 $, tu le sais, sur ta plaque qui vaut transport en commun. Ça, c'est une taxe supplémentaire pour aider à financer le transport en commun.
Je proteste! Je vais payer 250 $ pour écrire « fuck off » sur ma plaque. Brillant.
C'est ça pareil.
Ouais, c'est nous autres.
Mais le montant précis va être fixé d'ici le 15 septembre pour une application à compter du mois de janvier 2025. La ville qui avait comme une date butoir pour en faire la demande du côté de la SAAC, là. Puis on demandait un délai, puis un délai, puis un délai, bien là, on semble y être allé pour le minimum pour une première fois.
OK. Dans la circulation, Audrey.
C'est super lourd sur la capitale, direction Est, à la hauteur de Robert Bourassa. Direction Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne qui semble y avoir des problèmes. En fait, même sur la capitale Est, à la hauteur de Beau-Royal, il y a un petit ralentissement qui commence à se créer. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la capitale, c'est toujours au ralenti. Henri IV Nord, à la hauteur de la capitale, il y a un ralentissement inhabituel. Sinon, c'est dans le coin de Val-Bélair, comme à l'habitude, à la hauteur de l'avenue industrielle. Route de la Bravo, dans les deux directions, à la hauteur de la base militaire, il y a encore quelques problème. Après ça, l'entrée du pont Pierre-Laporte, direction sud, c'est assez difficile. Là. Si vous êtes sur Henri IV Sud, la congestion commence à la hauteur à peu près de chemin Sainte-Foy, pareil pour Duplessis Sud. Et la 20 direction ouest, c'est entre chemin des Îles et Taniata-Saskor. S'il y a quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
Et là, une histoire révoltante à nous raconter aujourd'hui. Une histoire qui nous montre plein de choses. Premièrement, le courage d'une victime, mais qui nous montre aussi le manque de regret même de quelqu'un qui plaide coupable à certains chefs d'accusation très graves, mais aussi jusqu'où ça peut aller et la force que ça a, la manipulation toxique. Il y a tout ça dans cette histoire-là. En studio avec nous, Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil. Salut, Judith.
Allô.
Cette histoire-là, on l'a racontée tantôt dans le bulletin de nouvelles de Véro. Elle nous a toutes levé le cœur à de multiples endroits. Fait qu'on va te laisser raconter la triste histoire de Jean-François Moffette.
Bien, on en a déjà parlé ici, là. Vous le savez, là, c'est jamais facile au palais de justice. Il y a des audiences qui nous choquent plus que d'autres, ouais. Mais il y a des situations en violence conjugale comme celle-là qui...
Dépasse l'entendement?
Oui, c'est le genre d'audience où c'est très tendu, je dirais, puis où tu n'as pas le goût d'être là. Mm-hmm. Puis ça, c'est un des cas où ça arrive.
Ça a été le plus flagrant, peut-être?
Bien, quand tu as la victime d'un côté... l'accusé s'apprête à dire qu'il oui, il fait de la violence sexuelle, psychologique, physique. Puis de l'autre côté, t'as la nouvelle conjointe qui lui fait des sourires pendant que tout ça se passe.
Au gars qui a plaidé coupable.
C'est difficile à voir, difficile à comprendre, surtout pour quelqu'un qui n'est pas dans leur situation. Mm-hmm. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mm-hmm. Jean-François Moffette a fait vivre l'enfer carrément à Audrey Vanoute, et je salue son courage. Elle a levé l'ordonnance de non-publication sur son identité pour pouvoir s'exprimer sur ce qu'elle a vécu.
Okay.
Donc, il lui a fait vivre l'enfer pendant plus d'un an et demi. Puis, ça, vous le savez, ça commence jamais par une claque d'en face. Là. Ça mm-hmm. commence par des commentaires. Donc, on a parlé de violence psychologique, puis un jour, la claque à part. Puis après ça, ben tu rentres dans un tourbillon, puis tu sais pas comment t'en sortir. C'est un peu ça qu'elle expliquait.
En fait, ça coche toutes les cases des histoires qu'on entend de violence conjugale, que ce soit de la violence physique, psychologique,
les
agressions sexuelles, le fameux cycle de violence.
La recette est la même.
Exactement.
Souvent. Puis, on a beau la répéter... Il y en a encore présentement des femmes qui sont dedans et qui ne savent pas comment sortir.
Elles en fait, qui ne s'en rendent même pas compte.
Exact, encore. Fait que, non, fait que là, ils ont cité tout ce qu'ils avaient fait, puis elle a porté plainte en décembre 2021. Puis là, après 29 mois, elle voit vraiment la conclusion de ce processus-là qui a été très dur et long. Donc, pendant ce temps-là, il y avait la nouvelle conjointe qui, elle aussi, là, il a reconnu l'avoir envoyé des communications harcelantes. Donc, puis, juste après qu'il ait plaidé coupable à communication harcelante envers sa conjointe actuelle, vous me suivez?
Oui.
Il a dit qu'il s'excusait beaucoup.
qui s'excusait.
Elle, il s'est excusé. À elle, il s'est excusé beaucoup.
Mais c'est
quand
pas
est venu le temps de plaider coupable au chef d'agression sexuelle, de voie de fait et d'harcèlement, il a dit, on lui a demandé, avez-vous quelque chose à rajouter? Et il a dit, pas vraiment.
Est-ce que le tribunal intervient dans des situations comme ça? Parce que ça peut être encore une certaine forme d'intimidation psychologique.
Bien, rappelons que la CAVAC est avec les victimes en tout temps. Là. Donc, ces personnes-là, des fois, interviennent et expliquent comment se déroulent les choses. Puis, quand on a un juge coloré, c'est pas rare qu'il y ait des commentaires.
Okay.
Là, ça n'a pas été le cas. On l'a laissé faire le show qu'il voulait faire.
Ah oui.
Que...
Puis elle a réagi comment? La victime, là, celle qui fait en sorte...
Je pense qu'après 29 mois, je lui ai parlé. J'ai pu lui parler
elle, c'est 29 mois, c'est 29 mois de procédure, dans le fond, depuis le moment où elle a porté plainte.
Elle s'attendait plus à rien. Elle était juste contente qu'il reconnaisse les faits, qu'il les reconnaisse avec un sourire, en braillant, peu importe.
En envoyant des billes à sa blonde.
En envoyant des billes à sa blonde, ça lui ramènera rien de ce qu'elle a perdu. Elle est juste contente de pouvoir mettre un terme à ce processus-là et surtout qu'il reconnaisse les faits. Il n'y a plus personne qui va pouvoir y dire « Non, mais t'as inventé. Non, mais c'est pas ça qui est arrivé. » Tu sais, encore des gens là, qui lui demandent pourquoi elle a gâché sa vie à lui.
Alors que son ex-conjoint, qui est retourné en prison aujourd'hui, je dis retourné, lui avait des antécédents. Oui. Lui était déjà allé en prison.
Oui, puis c'est un peu pour ça qu'elle a levé l'ordonnance aussi, parce qu'elle, quand elle s'est mise en couple avec Jean-François Moffette, il était en procédure contre une première victime, son ex. Et elle n'en savait rien. Puis là, quand il y avait ses rendez-vous à la cour, il inventait toujours une petite histoire, tout fitait, là, il va à la maison de ses parents ou quoi que ce soit, il y avait toujours une raison. Puis quand elle l'a appris, c'est au moment de porter plainte. Puis elle, c'est ça qu'elle me dit. Elle me dit, si j'avais su, jamais je me rembarquais là-dedans avec lui. Fait que là, maintenant...
Hey, c'est pas juste un petit drapeau rouge, là, c'est un parachute rouge au grand complet. Là.
C'est pour ça qu'elle lève son ordonnance, parce que j'en avais parlé du cas de Jean-François Moffette avant dans un autre article, mais étant donné que tu as une agression sexuelle en contexte conjugal, tu peux pas nommer l'accusé, parce que c'est comme si tu identifiais la victime dans ce temps-là, parce qu'on le dit que c'était sa blonde. Fait que le nom est quasiment écrit. Donc, j'avais écrit l'article, je ne l'avais pas mentionné, sauf que cet article-là avait circulé parce qu'on a reconnu l'histoire d'Audrey là-dedans. Puis là, elle s'est dit, s'il y a sa face, au moins la personne qui va le fréquenter à sa sortie de prison va avoir toutes les informations.
Si elle google son nom, là.
Elle va le faire en toute connaissance de cause. Okay. Il va avoir une trace. Donc, c'est un peu pour ça qu'elle le fait. Elle veut, c'est pas par vengeance, c'est pour si elle sauve au moins une personne, ce sera ça.
D'un autre côté, ça va en prison aujourd'hui, puis il y a déjà une nouvelle blonde qui est dans la salle.
Ouais, elle se comporte comment pendant les procédures? Tu sais, pendant que, là, je suis en train de survoler ton texte, Judith, la victime, elle a lu un texte?
Non, c'est la procureure qui a lu la lettre qu'elle avait écrite.
Donc, quand les mots sont prononcés, là, « Il m'a volé mon sourire et ma joie de vivre. C'est cher payé, je trouve, pour avoir donné le meilleur de moi-même à quelqu'un. » Ça, c'est des phrases là, qui agitent toutes les drapeaux rouges en même temps. Ce que Véro appelle le parachute rouge, là, elle, la nouvelle blonde, elle trouve ça drôle?
Non, elle souriait pas. Là. Je pense qu'elle n'est pas contente. T'sais. On pense peut-être que nous, ça va être différent. Là, c'est des pensées qu'on peut avoir.
Ça aussi, c'est des choses qu'on entend souvent dans des contextes de violence conjugale.
Puis lui aussi, il n'était pas fier. Là, il souriait plus quand on lisait la lettre d'Audrey. Là. Okay. Il était à côté au mur. Il ne voulait pas lui donner de l'attention. Il ne l'a jamais regardé, mais au moins, il ne souriait plus. Fait que c'est ça de fait.
Elle, quand elle décide de dévoiler son identité, c'est-tu parce qu'elle veut aller plus loin? Elle veut-tu parler à des journalistes un peu plus? Elle veut-tu...
Elle s'est confiée à moi longuement. Il y a un article qui sort demain matin dans le Soleil.
Okay.
Puis on a discuté ensemble. Puis elle me parle des derniers 29 mois. Puis lever l'ordonnance, c'est d'abord pour arrêter d'avoir honte, parce qu'elle n'est pas capable de se départir de ce sentiment-là qui l'habite encore, d'avoir honte, d'avoir vécu ça, de ne pas avoir vu et tout. Et en reprenant le contrôle de ce qu'elle peut contrôler, ça lui redonne une force supplémentaire. Puis elle veut se confier sur... Parce que le processus judiciaire, on dit tout le temps, c'est long et pénible pour des victimes. Mais elle, ce n'est pas les visites au palais de justice qui ont été... Oui, c'était dur, mais c'est pas ça qui l'a presque fait abandonner. C'est la gestion du bracelet anti-rapprochement.
Ah, parce qu'elle fait partie de cette dans la première vague, là?
Dans la première vague, et elle s'est confiée là-dessus. Puis elle parle d'un manque d'empathie de certains acteurs autour du programme. Puis je vous donne un exemple. Quand elle était, mettons, dans son véhicule et elle roulait vers le périmètre où lui, mettons, il pouvait être, je sais pas, dans un café. Puis elle roulait, puis c'est elle qui allait vers lui. Mais on lui demandait à elle de changer de route.
Alors que ça n'a pas de bon sens, là. C'est lui qui n'est pas censé s'approcher d'elle. Elle, elle ne s'en va pas vers lui.
On lui a suggéré de changer ses habitudes. Elle a changé d'épicerie. Elle a déménagé. Elle a changé d'auto.
C'est elle qui a eu à subir elle les conséquences sentie... de cette ordonnance-là.
Oui, un peu. C'est comme elle qu'on changeait sa vie à elle et pas à lui. Parce que des fois, lui ne voulait pas bouger ou on lui répétait souvent « le détenu a des droits ».
Ah, oh, ça m'insulte.
Puis, elle s'est fait dire, à Mané était tannée. On lui a dit de changer ses enfants d'école parce que lui, mais monsieur, où il travaillait, c'était des fois proche de l'école des enfants, fait que les périmètres s'entrechoquaient. Mm-hmm. On lui a suggéré de changer ses enfants d'école. Elle a dit, un instant, c'est assez. Mes enfants vont aller à l'école où ils vont aller. Puis là, à la minute où elle ne voulait plus changer ses habitudes, on lui a dit, c'est bien beau, vous ne voulez pas collaborer.
Mais voyons!
De dire, vous ne voulez pas collaborer à une victime
qui a choisi de porter plainte, là.
Oui, qui s'embarque dans un processus judiciaire qui va durer des mois, elle s'est dit, ben voyons donc, je collabore pas, là, vraiment.
Mais à partir du moment où tu as un bracelet anti-rapprochement, de facto, c'est pas à toi d'ajuster ton mode de vie à ce que tu as autour
c'est
du poignet ou autour de la
cas.
Cheville.
C'est censé être le cas.
Pourquoi ça n'a pas été traité comme ça?
Il y a des gens qui vont devoir répondre à des questions. C'est pas moi qui sais, mais je pense qu'il y avait souvent, c'était plus facile que ce soit elle.
C'était plus simple.
C'était son impression. Ah, je dis que c'est son impression. C'était plus simple que si elle faisait le détour, on n'avait pas besoin d'intervenir auprès de monsieur.
C'était plus simple de changer ses enfants d'école que de demander à monsieur de se trouver une affaire vu qu'il avait fait des gestes qui faisaient en sorte qu'il y avait un bracelet anti-rapprochement sur lui.
Puis elle ne veut pas critiquer le bracelet parce qu'elle l'a dit, là, elle est très lucide par rapport à ça. Elle dit que c'est un outil merveilleux.
Mais c'est sécurisant, j'imagine.
Elle y croit, sauf que... Elle veut donner une critique constructive. Elle dit, si je dis pas ce qui marche pas, on pourra jamais s'améliorer. Sauf qu'elle est choquée quand elle entend à la télé, ah oui, tout marche très bien, ça va bien.
C'est pas de même qu'elle l'a vécu pendant
elle,
tout.
Elle, c'est pas comme ça. Puis elle veut pas qu'on l'enlève. Elle veut juste dire, penchez-vous sur ce qui marche pas.
Occupez-vous des victimes. Donnez-leur un break. Entourez-les.
Le principal, c'est que quand il y avait des agents de télésurveillance ou des agents de probation qui l'appelaient, il y en a qui ont manqué de tact. Okay. Il y en a qui ont pas, ils se sont pas adressés de façon correcte à une victime. Peut-être qu'ils étaient mal formés, là, j'en sais rien. Donc, il y a toute cette partie-là qu'elle veut mettre de l'avant pour qu'on en discute, pour qu'on puisse s'améliorer, tout simplement.
D'ailleurs, qui est responsable de gérer le bracelet en bonne et due forme? Je veux dire, quand il y a un problème, là, qui appelle qui et comment? Je veux dire, c'est-tu un policier?
C'est des firmes qui s'occupent de ça.
Des firmes?
Oui. C'est l'agent de probation qui a le lien avec le prévenu.
Okay.
Et ensuite, c'est ça, il y a des agents de télésurveillance qui regardent les cartes et quand les périmètres se cognent, ben là, il y a un appel à la police. Là, rendu là, je connais pas toute la chaîne dans toutes les situations.
Mais il y a eu des manquements, clairement. Là. Il y a eu au moins un manque d'empathie puis d'humanité. Ouais.
Puis elle s'est dit que, tu sais, elle, quand elle a commencé à avoir les premiers articles sur Jean-François Moffett, même quand on le nommait pas, elle a réalisé que ce qu'elle vivait, c'était gros. Puis ensuite, ça a comme mis des mots sur ce qu'elle pensait. Puis elle a vu à un moment donné une victime qui avait parlé de façon anonyme sur son expérience avec le bracelet à la télé. Puis elle a réalisé qu'elle n'était pas tout seule à ce moment-là. Mmh. D'entendre ce témoignage de cette victime-là, puis ça l'a tellement aidée qu'elle s'est dit, moi aussi, je vais être cette personne-là pour d'autres victimes ou d'autres plaignantes qui sont en plein dedans puis qui ne savent pas s'ils vont voir le bout ou encore d'autres conjointes qui sont présentement malheureuses dans une relation qui ne devrait pas exister.
Pour en revenir à Jean-François Moffett, il est parti en prison pour combien de temps?
54 mois.
Là, il va les faire au complexe, à bonne attitude.
Il en a déjà fait un bout en détention provisoire. Là, je pense qu'il lui reste 35 mois, quelque chose comme ça.
OK. Et j'imagine que sa blonde actuelle va l'attendre tout ce temps-là.
Bien, on n'en sait rien. Et on l'a encouragé à faire des thérapies. On lui souhaite de les terminer.
C'est le moins qu'on puisse dire dans une situation comme ça.
C'est épouvantable.
Ouais.
Très hâte de lire ton texte demain sur les bracelets anti-rapprochement.
Oui, puis tu sais, il y a tellement... On reçoit beaucoup de textos puis de témoignages en ce moment, puis il y en a un qui me frappe parce que c'est quand même rare, puis c'est un gros préjugé que je lance là, corrigez-moi si je suis dans le champ, mais c'est quand même rare, on dirait qu'on entend parler de violence conjugale d'une femme envers un homme. J'ai l'impression que souvent, ce qu'on entend parler, c'est souvent le me suivez-vous?
Pas certain.
C'est rare qu'on entende des histoires où c'est la femme qui va procurer une violence conjugale envers l'homme. Puis cette histoire-là, le texto, c'est un peu ce que ça raconte. Puis il dit, même quand tu t'en sors de cette violence conjugale-là, tu as toujours envie de revenir un peu en cause de l'emprise que cette personne-là a sur toi. Lui, dit qu'il était avec une femme qui était super toxique, qui a fait vivre, écoute, des affaires épouvantables. Puis qu'au fond de lui, il essaie toujours de trouver le bon côté qui faisait qu'il est tombé dans le panneau à un certain moment.
Et à quelque part, tu te dis que si ça a dérapé, c'est probablement de ta faute. De ce que j'ai compris, comment fonctionne la manipulation.
Ah, exactement, c'est toi qui l'as mérité. C'est souvent ça qu'elles disent.
Puis, ça n'a pas de visage. Hein. C'est drôle. C'est parce que je regarde la photo du type en question là, qui s'en va en prison. Puis, il a l'air d'un autre chum, là, je veux dire, toute la gang.
Ça peut
là,
être n'importe qui.
Oui, exactement. C'est
souvent, c'est les clowns dans les soirées, puis les gens qui ont l'air...
Des gens en confiance,
ben heureux,
des gens en contrôle, des gens exubérants dans une certaine mesure. Ça fait réfléchir tout ça. Judith, merci beaucoup.
Merci.
Je pensais que ça réglait tout, moi et maudit bracelet, mais on n'est pas capable de gérer ça comme du monde, ça a l'air. Incroyable. Vous lirez ça demain dans Le Soleil, lesoleil.com, évidemment. On fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102. Hein? Gravel. Boulevard.